Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont bougé.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spézelles.
Oh, bonne mère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
Ah là, c'est bon.
Le monde va mal. C'est avec cette phrase bateau qu'un de mes meilleurs potes a choisi de commencer son discours lors d'une fête cet été. Ça a fait rire les tablés parce que, oui, le monde va mal. Mais en attendant, on est encore là pour le constater. Réchauffement climatique, tensions géopolitiques, Trump au pouvoir, le Brexit, 111 000 éléphants en moins sur le continent africain et toujours cette chasse d'eau qui goûte, la situation est critique, mais bizarrement, on n'a pas encore fait exploser la planète. Et si ça devait arriver? Et si tout s'écroulait de notre vivant? Et si la fin du monde était pour demain? À quoi ressemblerait une vie de l'après-pétrole? Cette question, de nombreux adeptes du survivalisme y ont déjà réfléchi. On ne sait pas exactement combien ils et elles sont dans le monde, mais à en voir les best-sellers sur la question, les bunkers qu'on vend aux États-Unis et les nombreux sites d'information et de partage de conseils post-apocalyptiques, il existe bien une communauté grandissante d'individus préoccupés par le principe de catastrophe. Pendant que les débats sur la collapsologie vont bon train et que la place médiatique essaye de comprendre si les théories de l'effondrement sont scientifiquement viables ou non, on s'est réservé la partie la plus intéressante de la discussion. Qu'est-ce qu'on mange ? On va se l'avouer d'entrée de jeu, il n'y a pas un seul scénario de fin du monde, donc pas non plus une seule façon de s'y préparer. Est-ce que par fin du monde, on entend fin des infrastructures, des réfrigérateurs, des voies de communication ? Est-ce que dans cette fin du monde, la faune et la flore existent encore ? Est-ce qu'il resterait beaucoup d'humains ? On a choisi ici de se concentrer sur deux cas de figure. Avec Eleonore Luna, monitrice que j'ai rencontrée lors d'un stage de survie, on a réfléchi à des moyens de survivre en pleine nature. Ça tombe bien, il existe plein d'herbes sauvages, pleines de nutriments, et ce n'est pas difficile de les reconnaître.
Tous les plantains sont comestibles, que ce soit le grand plantain, le plantain lancéolé, ils sont tous comestibles. Quand on coupe les feuilles, il y a des petits filaments qui sortent au niveau de la tige, et donc on peut manger les feuilles crues ou cuites, et on peut manger les fleurs, donc les fleurs ça fait des petits pompons marrons.
Mais d'abord, j'ai discuté avec Catherine Renard, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique. Je lui ai posé une question simple. C'est la fin du monde bientôt, mais on a quand même encore un peu de temps pour faire des courses. Que penser des boîtes de conserve et quelles sont celles à mettre de côté si l'on veut se préparer au pire?
Mais moi, j'irais acheter ce que font les grands-mères, de la farine, de l'huile, du sucre, et puis des conserves de poissons, des conserves de légumes, ce genre de choses. Mais d'abord, j'irais stocker les produits secs, qui prennent moins de volume mais qui contiennent plus de calories.
D'accord. Donc ça, c'est assez stratégique pour pouvoir avoir les apports qu'il faut pour avoir assez d'énergie, en fait.
Voilà, c'est ça. Et sachant qu'après, il faudra quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'agriculture? Ce qu'on a récolté, comment est-ce qu'on va le stocker? Il y a des stratégies de stockage que nous n'utilisons plus, donc il faudrait réapprendre. Comment en même temps s'assurer qu'on ne rentre pas dans des zones à risque en termes microbiologiques. Donc il y a des choses qu'on n'a plus en main ou qu'on n'a plus en place, comme par exemple tout ce qui va être le séchage de la viande ou de certains légumes, ou des fruits d'ailleurs, la conservation des céréales. Tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas de façon décentralisée aujourd'hui, ou même qu'on ne fait plus. La viande séchée, c'est quand même quelque chose de très anecdotique dans nos sociétés. Et donc, il y a vraiment tout un tas de choses. Là, c'est vraiment revenir à une alimentation locale, mais une alimentation locale sans avoir les moyens de la chaîne du froid, sans avoir les moyens même de faire des conserves, des vraies conserves, parce que ça demande une infrastructure pour aller au-delà de 100 degrés. Pour avoir vraiment une élimination des spores bactériennes. Donc ça implique quand même de vraiment beaucoup revenir en arrière, de se poser beaucoup de questions, et sans même parler de la question de la productivité agricole.
Donc même par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc garder de la farine, des pâtes et autres, pour pouvoir les utiliser, ça suppose encore avoir des moyens de cuisson.
Oui, oui, oui.
Donc dans les conserves, disons, le truc prêt à manger, le truc qu'on a vraiment dans l'armoire et qu'on peut ouvrir et manger tout de suite, qu'est-ce que vous prendriez comme des poissons gras peut-être plutôt?
L'avantage effectivement de la conserve, c'est comme vous l'avez dit, c'est que ça peut se manger tout de suite sans même se faire réchauffer. Et ce qui serait le plus opportun, à mon avis, c'est effectivement tout ce qui va être les poissons gras, les plats préparés traditionnels comme du cassoulet. En principe, une conserve a une durée de vie de 3 ans affichée sur la boîte, et en pratique, une conserve qui n'est pas gonflée peut se garder quelques années de plus. Vous allez perdre un petit peu du point de vue gustatif, ça va évoluer du point de vue gustatif, mais par contre, il n'y a pas de risque d'un point de vue microbiologique, tant qu'elle n'est pas gonflée.
Et vous expliquez qu'il est tout à fait possible d'avoir une alimentation équilibrée en consommant des conserves.
Oui, effectivement, les conserves sont des produits qui permettent d'avoir un apport alimentaire équilibré. Donc il y a vraiment des types de produits qui vont pouvoir être mis en conserve, comme les légumes en particulier, comme le poisson. Et ces produits-là peuvent très bien contribuer à une alimentation équilibrée, y compris l'alimentation en vitamines des fruits et légumes ou les apports en acides gras polyinsaturés des poissons, etc.
Mais alors, on dit quand même que rien ne vaut un légume frais. Et est-ce qu'on perd beaucoup de micronutriments quand on met des légumes en boîte ?
Oui, on perd des micronutriments quand on met des légumes en boîte, parce que la boîte, en fait, ça réalise une cuisson assez importante. Il faut bien voir qu'on n'en perd pas tant que ça. Moi, j'ai pas mal travaillé sur la caractérisation de la vitamine C dans les conserves de légumes verts ou dans les conserves de tomates. Finalement, on a des pertes qui existent, mais qui sont pas forcément plus élevées que ce qu'on peut avoir dans le transport de la récolte à notre cuisine, qui est quand même quelque chose d'assez long. Alors que les aliments en conserve sont, eux, transformés dans la demi-journée après la récolte, typiquement. Et puis, vous avez cet effet de transport, longue durée du transport, et puis vous allez vous-même les faire cuire. Et cette perte à la cuisson, elle a lieu quand vous les faites cuire à partir du cru. Quand vous les réchauffez à partir de la conserve, elle a déjà eu lieu avant d'arriver chez vous. Donc, en fait, il y a une perte en micronutriments dans les conserves, mais qui quantitativement, finalement, n'est pas très différente de ce que vous avez sur un aliment frais, conservé dans toute la chaîne logistique pour arriver chez vous, peut-être mis au frigidaire pendant 1 semaine à 10 jours, et ensuite cuit à la maison.
D'accord, ok, c'est hyper hyper intéressant. Donc les pertes en micronutriments dans le cas des haricots verts en conserve ou des haricots verts frais seraient à peu près identiques quand même ?
C'est à peu près identique, oui. Bon, sachant qu'en plus, ces concentrations varient beaucoup selon les haricots. Mais en fait, quand vous faites cuire des haricots et que vous les aimez bien mous, bien fondants, vous les faites cuire aussi assez longtemps. Souvent, on les fait cuire dans beaucoup d'eau. Et ça, c'est pas une bonne idée en termes de micronutriments parce qu'ils vont partir avec l'eau. Après, bon, effectivement, on peut réfléchir à comment on fait cuire ces légumes, mais typiquement, on considère qu'on n'a pas de si grosse différence que ça une fois arrivé dans l'assiette du consommateur.
Donc, si par exemple je vous dis que c'est la fin du monde bientôt et que pour me préparer, je prends des boîtes de maïs, de sardines, donc du cassoulet de Castelnaudary. Des haricots verts, des pois chiches ou même des raviolis, ça va, c'est pas trop mal,
c'est lourd. Moi, enfin, une chose auquel j'ai pas pensé, c'est peut-être passer dans un magasin de sport, prendre les portions lyophilisées pour sportifs. Plus léger, ça prend pas beaucoup de place
et c'est plein d'énergie. Dans une ville, on tiendrait combien de temps en moyenne en termes de denrées alimentaires?
Alors, une ville comme Paris a du stock pour moins d'une semaine.
D'accord.
En termes alimentaires.
Donc si on coupe les routes, les voies aériennes et autres, là tout de suite, on a pour quelques jours et moins d'une semaine de denrées alimentaires.
Voilà, c'est ça. On est vraiment dans une société de flux tendu en termes alimentaires. Le stock, il n'est pas dans Paris, il est à l'extérieur de la ville.
Donc ce serait un constat différent pour les zones plus rurales ?
Ça peut être un constat différent pour certaines zones rurales, oui. Sachant que dans les zones rurales, ce que vous avez aussi aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une certaine spécialisation. Et donc, si la fin du monde se produit et que vous êtes à Narbonne, à part boire du vin rouge, vous serez un petit peu embêté.
Pourquoi on conserve les aliments exactement ? Donc, c'est pour en préserver la comestibilité, c'est ça, à long terme ?
Alors, pourquoi est-ce qu'on préserve les aliments ? C'est pour qu'ils restent comestibles dans les périodes où il n'y a pas de production. et donc qu'on puisse les transporter. Les conserves, par exemple, une boîte de tomates, ça vous permet de manger un plat à la tomate en plein hiver. En fait, les conserves ont été inventées par Nicolas Appert, justement pour pouvoir fournir des denrées alimentaires avec une qualité nutritionnelle suffisante pendant les guerres napoléoniennes, donc pour pouvoir transporter des aliments sur de longues distances et les garder pendant des temps longs. Et donc les conserves ou tout moyen de conservation de l'aliment, c'est ça, c'est d'être capable de passer, le départ c'est ça, c'est d'être capable de passer les saisons où il n'y a pas de production alimentaire, d'éviter la disette qui se produisait de façon classique en début de printemps, la disette entre le moment où on avait consommé ce qu'on avait récolté en automne et ce qui arrivait au printemps n'était pas encore arrivé à maturité.
Donc survivre au temps qui passe tout en ayant une sécurité microbiologique assurée.
Oui, et spécifiquement dans le cas des conserves, les conserves sont venues en remplacement de méthodes de séchage ou de salage ou de la conservation au frais mais qui avaient des durées de vie beaucoup plus courtes. Donc en remplacement de méthodes de séchage et de salage, donc elle permet de conserver plus de vitamines et par exemple d'éviter les épidémies de scorbut typiquement dans l'armée de Napoléon.
Est-ce que dans l'industrie agroalimentaire, on a tendance aussi à ajouter du sel pour conserver les aliments ?
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a un certain nombre de procédés, dont grande partie des procédés traditionnels, dans lesquels on va utiliser du sel, et là on utilise vraiment beaucoup de sel, dans les aliments, de façon à diminuer l'activité de l'eau, diminuer la teneur en eau disponible, et arriver à une conservation spontanée quasiment de l'aliment. Ça, il faut bien voir que c'est des choses qu'on ne fait plus et que nous n'accepterions plus de manger tellement ils sont salés. Les choses qu'on voit encore, c'est de la morue, par exemple. Mais la morue, on la fait largement dessaler avant de la consommer. Donc ça, c'est tout le sel en tant qu'agent de conservation. Ça contribue quelquefois un petit peu, ça contribue dans le beurre, mais on fait plus de beurre salé de façon à conserver le beurre. On fait du beurre salé parce que les Bretons aiment le beurre salé. Voilà. Donc cette question de la conservation, la conservation par le sel, c'est quelque chose qui a été quasiment totalement éliminé avec l'arrivée de la chaîne du froid, qui permet de relâcher un petit peu cette contrainte sur l'activité de l'eau. L'autre chose, c'est qu'effectivement, les industriels de l'agroalimentaire mettent du sel dans les aliments, mais ça, c'est pour l'effet gustatif. Quand vous mangez... Un exemple tout bête, hein. Quand vous allez en Espagne, vous allez manger du pain espagnol qui est beaucoup moins salé que le pain français. Et vous allez le sentir. Et la plupart des gens disent « c'est moins bon ». Et on voit en France, il y a du sel dans le pain, on a fait des efforts, on a demandé à l'interprofession de s'organiser pour diminuer la teneur en sel du pain. Ils l'ont fait petit à petit. Et on s'en est pas aperçu, parce qu'en fait, on s'en aperçoit pas à la longue. Mais ça, si un seul boulanger le fait dans une ville, eh ben, tous ses clients vont aller chez un autre boulanger. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à le faire de façon concertée. Et puis, il y a certains produits où le fait de moins avoir de sel, même s'il n'a pas sa fonction de conservation, change un certain nombre de caractères organoleptiques du produit. Par exemple, dans un certain nombre de fromages, le fait d'avoir du sel sélectionne certaines flores microbiennes et par exemple permettent, alors je me rappelle plus si c'est permettent ou empêchent le développement des bactéries rouges. Et donc quand vous faites le même produit mais que vous diminuez la teneur en sel 5, 10, 15, 20%, 30, il y a un moment où vous ne fabriquez plus le même produit. Il n'a pas la même teneur en sel, c'est pas les mêmes micro-organismes qui se développent, c'est pas les mêmes arômes.
Le résultat sera différent.
Le résultat est différent aussi pour le consommateur. Oui.
J'ai vécu un an en Italie et au début, quand je mangeais du pain là-bas, j'avais l'impression à chaque bouchée qu'il manquait quelque chose, que le goût du pain n'était pas vraiment là. Alors qu'en fait, le truc qu'il manquait, c'était surtout le sel. Et je pense qu'au bout de quelques mois, je prenais donc des morceaux de pain pour saucer une fin de risotto. Et là, ça me choquait plus trop. Et j'ai eu à nouveau ce petit choc en fait en revenant en France et en mangeant des baguettes, voilà, des traditions classiques. Et je les ai trouvées très très fortes en sel en fait, très avec un goût particulièrement présent.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le sel, on est habitué à certaines teneurs en sel dans nos aliments. Et il y a beaucoup d'aliments où, en fait, on peut très bien diminuer cette teneur en sel. Il n'y a pas d'incidence sur le risque. Il y a même assez peu d'incidence autre que ce goût salé auquel on est habitué. Et quand il n'est pas là, il nous manque.
Alors, on explique aussi que avec l'arrivée des réfrigérateurs, vraiment dans les années 60-70, les gens se sont mis à davantage donc compter sur le frigo pour conserver leurs légumes, alors qu'autrefois l'été c'était vraiment une habitude comme ça de famille. On se mettait tous ensemble autour d'une table et on préparait des bocaux, des conserves et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on pourrait faire pour préparer la fin du monde, si on nous annonçait la fin du monde? Donc préparer des bocaux, sachant qu'en plus, on dit que les aliments fermentés sont plutôt bons pour la santé.
Alors, il y a deux sortes d'aliments fermentés. Il y a deux sortes d'aliments conservés dans ce que vous me dites. Il y a les aliments en conserve cuits, parce que ce qu'on faisait traditionnellement dans les fermes, c'est des conserves cuites. Et les aliments fermentés. Alors, les aliments fermentés, oui, ça demande un savoir-faire qu'on a très peu en France, et ça demande aussi une habituation du goût. Dans les années 70-80, mes collègues à l'époque avaient travaillé sur le développement d'aliments fermentés, des aliments lacto-fermentés du type choucroute. Voilà, c'est typiquement ça. Le problème, c'est vraiment l'acceptabilité de ce goût particulier par les consommateurs français et les consommateurs, en gros, ouest-européens.
Parce que c'est assez acide, en fait. Donc, on n'en mangerait peut-être pas un repas entier.
Oui, c'est nettement plus acide. C'est aussi assez salé parce qu'on met du sel pour faire en sorte que ce soit les bactéries lactiques qui prennent le dessus sur un certain nombre de bactéries assez agressives pour nous. Donc il y a vraiment un certain nombre de questions qui peuvent se poser en termes de savoir-faire par rapport au risque et des quantités consommées qui sont effectivement a priori plutôt moins élevées que sur des aliments en conserve classique, enfin des légumes en conserve classique.
D'accord.
Et ça marche sur les produits un petit peu acides. On peut faire ça sur de la viande, hein, ça s'appelle du saucisson.
Oui. Est-ce que vous avez chez vous des conserves?
Oui.
Ouais.
Oui, oui.
Vous y avez souvent recours?
Oui. J'ai toujours des boîtes de tomates pour passer l'hiver. Des conserves type, des conserves de légumineuses. Parce que les haricots, ça prend longtemps à tremper et à faire cuire. Et c'est quand même beaucoup plus pratique en conserve. Et puis quelques conserves de légumes et des sardines à l'huile. Parce qu'on aime bien ça, mon fils et moi.
D'accord. Mais c'est vrai que c'est délicieux, les sardines à l'huile. J'en ai toujours quand on part en randonnée. C'est...
Voilà, c'est bon et c'est plein d'énergie.
Ouais. Mais alors, justement, pour le cas des sardines à l'huile, ce que je trouve génial, c'est que c'est même pas moins bien. C'est différent en tout cas, mais c'est un autre style. C'est-à-dire que, pour développer un peu ma pensée, les haricots verts, donc, dans tous les cas, je les préfère frais et éventuellement en boîte, ça dépanne. Alors que les sardines en boîte, c'est même pas que c'est moins bien que les sardines achetées fraîches et balancées sur un barbecue, c'est que c'est un autre produit qui est génial aussi tel quel, quoi, à l'huile.
Oui, là on est vraiment sur le cas où on a des produits spécifiques développés parce qu'on peut les faire en conserve. C'est le cas typiquement de la passata, les tomates un petit peu écrabouillées là. Vous avez certains des produits de poisson. Vous avez aussi, alors ça on n'aime pas trop en France, mais tout ce qui est corned de bœuf et compagnie.
Oui.
Il y a des produits qui se sont développés avec la conserve au 19e siècle et qui sont vraiment conditionnés par ce mode de préparation et de conditionnement.
Oui, donc des produits qui ne subissent pas simplement cet emballage pour des soucis de praticité, mais qui en deviennent des produits cherchés en tant que tels pour cette raison.
Oui, et culturellement. Hein. Les industries de la sardine, ça a été une grosse industrie sur toute la côte française, avec vraiment beaucoup d'emplois, beaucoup de pêche, et c'est quelque chose qui s'est répandu rapidement, parce qu'on était sur un temps où il y avait finalement pas tant de chaînes du froid que ça, et donc le poisson à l'intérieur des terres, c'était quand même quelque chose d'assez pauvre en termes de choix, en termes de qualité. Et là, vous avez ces boîtes qui sont quelque chose, un produit original et un produit très agréable au goût, très pratique, etc.
Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les conserves se valent ?
Alors, je dirais que toutes les conserves ont les mêmes points de base, qui est leur capacité de se conserver et de préserver certaines qualités nutritionnelles sur des temps très longs. Après, elles vont pas avoir toutes les mêmes qualités. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gammes différentes. Quelquefois, c'est sur des points de détail. Par exemple, il y a des gammes de haricots verts rangés à la main par des dames quelque part au Kenya. Donc, ça fait une boîte qui est beaucoup plus jolie que la boîte que vous achetez, qui a été faite dans le nord de la France et où les haricots ont été entassés dans la boîte. Mais c'est, voilà, ça fait une autre gamme en termes de prix. Vous avez aussi des questions de tri. Le tri est plus ou moins poussé selon la gamme de conserves que vous achetez. Et puis, la qualité, en gros, de la matière première qui rentre dedans. Et ça, vous allez le voir en particulier sur un certain nombre de produits à base de viande ou de l'extrême étant des produits type foie gras, où la qualité du foie est quand même importante pour la qualité du produit. Voilà. Donc là, vous avez des conserves qui ont les mêmes propriétés en termes de conservation, mais qui n'ont pas la même qualité gustative, tout simplement parce que les gens n'ont pas fait la même attention ou ont mis simplement des produits qui avaient des qualités initiales différentes.
Pendant qu'on parle de boîtes de conserve, le business de l'apocalypse, lui, existe bel et bien. Aux États-Unis, la nourriture d'urgence est un marché très rentable. Produits lyophilisés et conserves en tout genre sont d'ailleurs particulièrement prisés en période d'épisodes météorologiques exceptionnels. Au-delà des questions de réserve à faire dans son garde-manger, que l'on vient de voir avec Catherine Renard, se dessine une autre question qui nous a intéressés lors de la préparation de cet épisode. Celle d'une résilience dans la nature. Et ça tombe bien, parce que fin du monde ou pas, ces conseils pourront vous servir dès dimanche prochain si vous décidez de faire une petite randonnée.
Du coup, on est dans ce petit parc parisien pour essayer de trouver quelques plantes sauvages comestibles. Alors déjà, le premier truc à savoir, il faut être vigilant déjà où on va cueillir. Donc, on évite tant que possible d'aller cueillir des plantes sauvages à proximité des zones de pollution. Donc ici, c'est pas l'idéal si on veut s'alimenter. Quand on n'a pas le choix, on peut les rincer. Mais l'idéal, c'est vraiment d'aller les choisir loin des zones de pollution, donc loin des routes, loin des zones de passage de gibier à cause des crottes. Donc là, normalement, il n'y a pas énormément de gibier, il n'y a pas beaucoup de renards. Et loin des champs cultivés, parce qu'il peut y avoir des pesticides ou des engrais dessus, donc c'est mieux d'éviter tout ça. Et puis la deuxième règle principale, ça va être d'être sûr et certain d'identifier la plante à 100%. Dans le doute, on évite, on fait pas. Le moindre doute peut être fatal. Il y a pas beaucoup de plantes, il y en a à peu près 20% en France qui sont toxiques. Mais par contre, celles qui sont toxiques, elles sont très toxiques. Donc vraiment, il faut éviter.
Pendant tes stages de survie, tu nous indiques une façon de vérifier qu'une plante est comestible ou en tout cas qu'on n'est pas allergique ou intolérant à cette plante.
Oui, alors c'est une technique qui a été développée par les SAS, je crois, en Angleterre, si je me trompe pas. Et c'est une technique qui est présentée dans tous les guides de survie, mais qui est assez décriée parce qu'il y a plein de plantes qui ne passeraient pas le test. Et il y a des plantes qui passeraient le test quasiment jusqu'au bout. Donc en fait, c'est le fameux truc qui est très connu, hein. On prend un morceau de la plante, on l'écrase un petit peu pour en extraire les sucs. On va la frotter à l'intérieur de son bras ou du poignet, au niveau du coude ou au niveau du poignet, là où la peau elle est toute fine. On attend 10-15 minutes. Si au bout de 10-15 minutes, il n'y a pas de réaction allergique, il n'y a pas de rougeur, de cloques, de choses incroyables, de démangeaisons ou de sensations de picotement, on peut passer à l'étape suivante. On fait la même chose à l'intérieur de la bouche, au niveau des muqueuses. Si au bout de 10-15 minutes, il n'y a toujours pas de sensation désagréable, de piqûre, de super salivation, de picotement, de gonflement de la langue, on passe à l'étape suivante, on en prend un petit peu dans la bouche, on le mâche. Et si tout se passe bien, on en avale une petite quantité. Et normalement, il faudrait rien manger d'autre pendant 6 heures, de façon à être sûr et certain que si jamais on est malade, c'est la plante qui nous a rendu malade et pas autre chose.
Faut avoir du temps devant soi alors pour ce test.
Faut avoir du temps. Et puis, on va voir qu'en fait, il y a plein de plantes qui ne passeraient pas les tests, pas le premier test. On les frotte, ça fait des super, c'est super urticant et en fait elles sont comestibles. Et à l'inverse, il y a des plantes qui iraient quasiment jusqu'à la dernière étape et en fait une petite dose peut être hyper toxique, quoi.
Parce que là, donc on est dans un parc du 9e et tu le disais, donc il y a toujours des risques de retrouver de la pollution en fait sur ces plantes,
oui.
Mais aussi
potentiellement de l'urine des chats et des chiens qui sont dans les ouais. parages.
Alors, c'est pas très hygiénique l'urine, mais il y a pas beaucoup de maladies très très graves. La maladie la plus grave, ça va être surtout l'échinococcose. Donc à Paris, normalement, le risque il est modéré, c'est dans les excréments, dans les selles des carnivores. Donc dans les crottes des renards ou un peu des blaireaux et beaucoup dans les chiens. Les chiens domestiques, ils peuvent avoir l'échinococcose. C'est une petite larve de la famille des ténias. Et les plantes qui sont en contact direct avec les selles, donc tout ce qu'on va ramasser à hauteur du sol, peut être contaminé. On va les ingérer, on va avaler les œufs et la larve va se développer dans notre système digestif tranquillement. Et elle va aller s'installer dans notre foie. Et elle va attendre, elle va faire sa petite vie de larve pendant 5, 10, 15 ans des fois. Et au bout de 10 ou 15 ans, et ben on va développer des problèmes hépatiques, des problèmes de foie. Et en fait, ce sera trop tard, ça va faire des kystes, elle se sera enkystée dans le foie. Et on peut même éventuellement en mourir. Quoi. Donc, c'est...
D'accord, ça ne se soigne pas particulièrement alors ?
Non, au tout début, on peut retirer, enfin voilà, opérer, soigner, retirer les kystes et tout ça. Mais généralement, quand on commence à avoir des symptômes, c'est qu'elle est déjà bien, la maladie est déjà bien évoluée. Donc voilà,
faut D'accord.
mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on fait attention et on va ramasser plutôt des plantes en hauteur. Le D'accord. fait de les laver, ça ne suffit pas. Il faut les faire cuire. Il n'y a que la cuisson qui peut détruire les larves d'échinococcose.
Donc, on passe ça à l'eau bouillante
On les fait cuire.
On les fait cuire,
ouais,
vraiment.
Dans le doute, on les fait cuire. Une minute à 90 degrés. Ou c'est... Alors, je n'ai plus le chiffre précis en tête. Je crois que c'est 7 minutes à 60 degrés.
D'accord.
Soit 7 minutes dans une étuve, soit les passer à ébullition. Enfin, un gratin, des choses comme ça, là, il n'y a aucun souci. Et après, si on veut les manger crus, eh ben, on est soit sûr et certain que ça ne traîne pas, que ce n'est pas sur une zone où il peut y avoir des déjections, soit on va ramasser bah, à partir de 30 cm du sol, il n'y a pas de souci. Quoi.
Ouais. Mmh. Ok.
Donc, les feuilles des noisetiers, pour en revenir à une feuille de noisetier, il n'y a aucun souci puisqu'elles sont en hauteur.
Ouais.
On va prendre plutôt les jeunes feuilles, elles sont plus tendres et on peut même faire des beignets avec, c'est plutôt pas mal, c'est assez sympa.
Des beignets, donc ouais. comment on va faire exactement ?
Tu fais une pâte à beignets avec de l'œuf, de la farine, un peu d'huile. Et tu vas tremper tes jeunes pousses, par exemple, dans la pâte à beignets et tu vas les faire frire.
Ah.
Et ouais, c'est super bon, c'est assez tendre et c'est pas mal. Ensuite, là derrière, on a du pissenlit. Hop, le pissenlit, on le reconnaît facilement parce qu'en fait, tout le monde pense savoir reconnaître du pissenlit, mais il n'y a pas trop d'erreurs possibles, il n'a pas beaucoup de faux amis, il pousse en rosace, c'est-à-dire qu'il y a un point central et toutes les feuilles, elles vont pousser autour de ce même point central. Ensuite, il y a une tige unique qui va sortir de ce point central avec une fleur, enfin une inflorescence, un mélange de fleurs, ça fait des petits pompons jaunes.
Ouais.
Et donc, ce petit pompon jaune, en fait, c'est plein de petites fleurs et tout est comestible dans le pissenlit. La fleur, on peut la manger crue, on peut la manger cuite, faire de la confiture de pissenlit. En Haute-Saône, on appelle ça la cramaillotte. Et c'est une recette ancestrale. On met 1 litre d'eau, 365 fleurs de pissenlit et 1 kilo de sucre et on laisse compoter. Et ça fait, ça ressemble vraiment à la texture du miel.
Ah
et
oui,
ça
d'accord.
Fait, ouais, et ça fait un liquide jaune comme du miel.
Ok.
Après, il y en avait une autre qui était très connue et qu'on trouve un peu partout. C'est le plantain.
Ah oui, le plantain.
Ouais,
alors j'avais adoré quand tu nous as expliqué toutes les propriétés du plantain.
Le plantain, il est facile à reconnaître aussi parce qu'il a des feuilles, soit des feuilles qui vont être très longues, donc c'est le plantain lancéolé qui ressemble un peu à des oreilles de lapin, soit il a des feuilles qui vont être très rondes, comme le grand plantain. Mais dans les deux cas, en fait, quand on le retourne, les feuilles, elles sont striées. Il y a des stries parallèles, des nervures qui sont très marquées. Et tous les plantains sont comestibles, que ce soit le grand plantain, le plantain lancéolé, ils sont tous comestibles. Quand on coupe les feuilles, il y a des petits filaments qui sortent au niveau de la tige. Et donc, on peut manger les feuilles crues ou cuites. Et on peut manger les fleurs. Donc, les fleurs, ça fait des petits pompons marrons. Il y a plein de gens, je suis sûre, qui connaissent le truc. Quand on était gamin, on jouait, on faisait des catapultes avec. On pliait la tige et puis ça faisait une petite catapulte et on s'envoyait les fleurs dessus. Et donc, les fleurs sont comestibles et elles ont un super goût de champignons.
Ouais.
Donc, on peut faire une soupe de champignons. Si on rajoute des feuilles de consoute pour l'épaissir un peu, c'est parfait. Et en salade, c'est top, ça fait champignon de Paris, quoi.
Tu nous avais fait goûter ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mmh. D'abord, quand on goûte le premier bout, ça a plutôt un goût herbacé, bon, parce que ça reste une plante. Mais très vite, en fait, en arrière-goût, il y a le champignon qui
Le champignon de Paris qui tapisse la bouche et c'est rigolo, ouais.
Et donc, on trouve ça souvent près des orties. Ça peut aller souvent ensemble.
Ouais, alors on va le trouver sur les chemins tassés surtout. Le plantain, il pousse là où la terre elle est très tassée, sur de la terre très dense. Donc sur les chemins, au bord des routes, on va le trouver. Et l'ortie, on va la trouver partout où il y a de l'intervention humaine, où il y a des sols riches en azote. Donc sols riches en azote, l'ortie, elle pousse partout. Et elle, c'est la championne de la survie parce qu'elle est comestible. et on peut faire plein d'autres choses avec, mais on peut tout manger. Les tiges sont très très fibreuses, donc ça fait un peu comme si on mangeait des fils de haricots verts, c'est pas le truc, c'est pas la panacée. Par contre, les feuilles, on va prendre les jeunes feuilles au-dessus qui sont plus tendres et qui sont moins fibreuses, et on peut les manger là encore crues ou cuites. Alors crues, ça pique un peu. Donc, il faut casser les petits canaux de silice, les petites aiguilles qu'il y a au dos des orties. Et pour les casser, bah, soit on les prend dans les doigts, on va les rouler en les écrasant un peu, avec des gants si on a vraiment peur de se piquer. Et ensuite, on peut les manger. Elles sont hyper, hyper riches en vitamine C. Elles sont hyper riches en protéines. C'est une plante qui est très riche en protéines. Sur la matière sèche, si je fais sécher l'ortie, il y a 40% de la matière sèche en protéines. Donc, c'est juste énorme. Elle est riche en tout, en fer, en manganèse. C'était la plante, à l'époque du Moyen-Âge, anti-anémique, en retour de couche ou pour les femmes qui avaient des règles très hémorragiques. On leur faisait manger beaucoup d'orties. Et grosso modo, toutes les recettes à base d'épinards, tu peux remplacer par de l'ortie. Donc, c'est facile. Et quand on en trouve en hyper grande quantité. Donc, c'est royal, quoi.
Pourquoi on n'en trouve pas dans le commerce, finalement? Parce que c'est si simple à trouver dans la nature, peut-être que ça ne vaut pas spécialement le coup de commercialiser ça.
Ouais, je pense qu'il y a un côté où c'est trop simple. C'est pas assez vendeur parce que les gens se disent « Est-ce que j'ai envie de payer pour de l'ortie que je peux trouver dans mon jardin ?» Pas sûr. D'un autre côté, ils ne le ramassent pas non plus parce qu'il y a une méconnaissance. Et ça commence à se vendre. Dans les magasins bio, les trucs de phytothérapie, des fois, j'en ai vu en barquette. Très étonnant. Et en gélules, en plus en phytothérapie et tout ça, on en trouve parce que justement elles sont très très riches et en protéines, un peu comme on pourrait dire de la spiruline. Et sauf que c'est super local et voilà, c'est moins plus courant. Et puis c'est riche en fer.
C'est vraiment une plante hyper intéressante du coup pour les alimentations non carnées, pour ou même dans des réflexions plus locavores quoi. Finalement, c'est se dire que cette plante qui renferme tant de nutriments et qui est présente en grand nombre, on devrait absolument l'utiliser plus souvent.
Ah bah oui, moi je m'en sers beaucoup, hein. Je m'en sers assez régulièrement et franchement, j'invite tout le monde à essayer parce qu'au niveau du goût, une fois que c'est cuit, ça ressemble vraiment à de l'épinard, hein. En poêlé, en omelette, en gratin, en quiche, c'est royal. Et toujours une fois, en cueillant les feuilles au-dessus, si on cueille les 5-6 jeunes feuilles du haut, eh ben, on évite le problème des quinococoses. Donc c'est hyper safe en plus, y a zéro risque, quoi. Ça se renouvelle à fond, donc il y a pas de problème. Enfin, c'est une super, super plante, quoi.
Et comment on fait pour être sûr de ne pas trop se piquer non plus?
Alors moi, j'ai pas encore trouvé l'astuce. Il y a plein d'astuces de retenir sa respiration, de les prendre un peu à l'envers, au niveau de la tige, d'éviter le dessous des feuilles et tout. Moi, soit je les attrape franchement par la pulpe du doigt où la peau elle est un petit peu plus épaisse et du coup, ça pique pas trop. Soit j'enfile des gants.
Mmh. Oui.
Après, il faut se dire que c'est pour la bonne cause, c'est bon pour la circulation. Donc.
D'accord. Au pire, si on se pique, c'est pas très grave.
C'est pas très grave. Non.
Oui.
C'est pas très grave. Et souvent, il y a du rumex à côté, qui est une autre plante sympa et qui a au centre, quand on cueille la jeune pousse du centre, qui a une espèce de mucus. Ça ressemble à de l'aloe vera. Et en fait, c'est hydratant et ça permet de soigner les piqûres d'ortie. Ou le plantain. On peut écraser du plantain, c'est anti-inflammatoire, donc ça apaise un petit peu les piqûres d'ortie.
Après avoir ramassé quelques plantes sauvages, on a poursuivi la discussion bien au chaud. J'ai demandé à Éléonore comment elle était devenue prof de survie.
C'est compliqué, c'est toute une vie pour en arriver là. En fait, au départ, je suis infirmière. Donc, rien à voir avec le schmilblick, ou pas directement en tout cas. Et j'étais passionnée de randonnée, d'outdoor, un peu de pêche avec mon papy, de vie en plein air, la faune, la flore, la nature. Et puis, pas mal de bivouac un peu roots quand même avec les copains, des sorties un petit peu à l'arrache, dormir de façon pas très organisée dans les bois. Et donc, le mélange des deux m'a amené. Je me suis intéressée déjà au survivalisme, effectivement, dans un premier temps. Donc, ce courant qui veut se préparer un peu à une potentielle fin du monde, ou en tout cas un changement du monde tel qu'on le connaît actuellement. Et donc, mon intérêt pour le survivalisme, plus cette passion pour l'outdoor, m'a amené à suivre un premier stage de survie. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et c'était le début de la fin pour moi. Je me suis passionnée complètement pour l'autonomie en pleine nature, la sécurité, tout ce qu'on découvre, puis surtout des nouveaux environnements en permanence, des nouvelles choses. J'ai suivi ensuite un CQP randonnée, un diplôme donc d'animateur de randonnée. Et puis j'ai créé ma société, Time on Target, qui propose des stages de survie.
Est-ce que ton expérience passée en tant qu'infirmière te sert encore d'une certaine façon dans ce que tu fais aujourd'hui ?
Oui, alors mon expérience d'infirmière, ça me sert énormément parce qu'en fait, déjà, on n'invente rien, c'est des mécanismes physiques et physiologiques. Et donc, toute cette connaissance de la physiologie, elle me sert tout le temps dans mon métier au quotidien, en fait. Comprendre comment le corps réagit au froid, comment le corps réagit au stress, comment on a besoin de se protéger des environnements extérieurs. Et puis, pour la sécurité des gens, parce que bah, parfois, je pars à l'étranger, en expédition, dans des milieux un petit peu... un peu plus sensible, et donc d'être capable d'assurer la sécurité et les premiers secours si besoin, c'est quand même une bonne base.
Alors, on a employé le mot survivalisme tout à l'heure. Mmh. Ça veut un peu tout et rien dire dans les oreilles de chacun aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette mouvance ? Qu'est-ce que ça raconte selon toi ?
Ouais, alors ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte une véritable crainte, parce que on voit bien que le monde tel qu'on connaît aujourd'hui, on est dans une course effrénée à la consommation. On consomme toutes les ressources qui sont disponibles sur Terre. Et il y a un moment où le climat change, les populations changent, on devient trop nombreux sur Terre. Ça va pas pouvoir durer tel que c'est là. Donc il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans le milieu qui est assez connu du survivalisme, qui s'appelle Vol West, et lui il appelle ça la rupture de normalité. Donc c'est se dire que la normalité, le monde normal tel qu'on connaît aujourd'hui, il va pas pouvoir durer éternellement, et il y a bien quelque chose qui va arriver. Donc est-ce que ce sera une épidémie, est-ce que ce sera une guerre civile, est-ce que ça va être une montée des eaux qui va engendrer des problèmes, est-ce que ça va être un manque de ressources, voilà. Donc je sais pas ce qui va nous arriver, je suis pas assez calée en géopolitique et je suis pas devin pour le savoir, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que il va y avoir des changements, et plus ça va et plus les changements s'accélèrent, de toute façon on le voit. Donc il faut être prêt à être, alors c'est un mot qu'on aime beaucoup encore une fois dans le survivalisme, à être résilient, c'est-à-dire être capable de s'adapter aux changements qui vont arriver, quoi.
Et donc cette résilience, elle passe aussi par une réflexion autour de notre alimentation, et donc par exemple les plantes sauvages comestibles.
Alors moi j'adore le fait de me dire qu'il y a autour de nous plein de ressources qui sont insoupçonnées pour la plupart des gens en tout cas. Il y a toutes ces plantes qui poussent toutes seules, qui sont des véritables survivalistes, parce qu'en fait on les a pas cultivées, voire même éventuellement c'était des mauvaises herbes entre guillemets, on a essayé de les arracher, on a essayé de les exterminer, et malgré tout elles sont là. Et au contraire, elles sont du coup beaucoup plus fortes et beaucoup plus riches que n'importe quelle plante de maraîchage qui a été cultivée pour être résistante à des maladies, pour être plus belle, plus grosse, pour être bien calibrée et tenir dans des standards de beauté. Au niveau historique, en fait, si on regarde le terme de glandeur, c'est pas très valorisant comme terme. Hein, quand je te dis que t'es une glandeuse, tu vas pas très bien le prendre. Et en fait, ça vient du mot gland. Parce que autrefois au Moyen Âge, les glandeurs, c'est ceux qui allaient ramasser les glands, et on les a petit à petit associés à des gens qui étaient des glandeurs, des qui faisaient
oisives.
Pas grand-chose, des personnes oisives, et contrairement à celui qui allait cultiver, qui lui avait la partie noble du boulot, et donc il fallait mieux être cultivateur qu'être glandeur.
Tu as bivouaqué ou randonné même dans des endroits assez incroyables, il me semble, dans le monde. Est-ce que tu peux nous raconter une fois, une anecdote par exemple, de plantes sauvages que tu as trouvées, que tu as été bien contente de trouver à tel ou tel moment ?
Oh là là, il y en a plusieurs. Une qui était assez improbable, qui m'a fait vraiment plaisir, quand j'étais dans la jungle amazonienne en Bolivie, donc vers Madidi National Park. Et donc, j'avais un trek sans eau, sans nourriture pendant 3 jours. Et c'est le troisième jour, je crois, que j'ai trouvé. C'était une montée qui était particulièrement difficile. Il y avait une zone, c'était carrément de l'escalade. Je crois que j'ai avancé en 1 heure. J'ai dû faire 200 mètres parce qu'il fallait, avec la machette, couper les plantes et tout. C'était terrible. Et pendant 2 jours, j'ai quasiment rien trouvé à manger. Et là, je suis tombée sur un fruit qui ressemblait à une mangue, et elle avait un goût juste incroyable. C'était une sorte de mangue ou de papaye ou un fruit exotique hyper sucré, plein, très juteux. C'était trop trop bon, et donc je pense que pareil, en 4 secondes et demie, j'ai mangé tout le fruit et j'ai pas été malade. Mais c'était ça m'a sauvée, ça m'a remonté le moral, un truc de fou. Si on part et qu'on s'alimente que de plantes sauvages comestibles, on va avoir un peu faim la première journée ou les 2 premiers jours. Petit à petit, l'estomac va se rétrécir déjà, et puis le fait de manger un petit peu de plantes qui sont riches en nutriments, et ben on va en petite quantité, on aura tout de suite l'impression d'avoir déjà fait un bon repas. Et même si le nombre de calories n'est pas tout à fait suffisant, en tout cas, on aura pas mal de vitamines, qu'on a vu qu'elles sont très très riches en vitamines, beaucoup plus que les plantes de maraîchage. Et donc, on aura suffisamment de vitamines pour garder de la vigilance, pour être opérationnel, pour mener une activité régulière. la journée.
Oui, parce que c'est aussi ça que tu nous avais expliqué lors du stage de survie auquel j'ai assisté, c'est que c'est important d'avoir un minimum d'énergie pour justement être capable de voir le danger arriver, de faire attention, de ne pas prendre les mauvaises décisions.
Oui, parce que si on est complètement apathique et endormi et fatigué et qu'on est juste gavé, qu'on veut rentrer chez soi et qu'il y a un moment où on n'est plus capable de prendre les bonnes décisions, voire on n'est plus capable de prendre une décision tout court, on va se mettre en position fœtale dans un coin et on va pas avoir envie de monter le camp et on va attendre que ça se passe. Et du coup, quand c'est comme ça, ça se passe pas toujours très très bien. Il vaut mieux prendre une initiative et agir de façon un peu sensée et structurée pour s'en sortir.
Voilà, je ne sais pas si vous avez maintenant de quoi survivre à une éventuelle fin du monde. Si oui, on pourra en discuter entre nous, entre personnes qui ont écouté cet épisode, sur une colline en regardant le reste de la terre brûler, le moment venu. Mais vous avez en tout cas de quoi faire les malins lors d'une prochaine balade à la campagne ou en remplissant les meubles de votre cuisine de quelques conserves. Perso, même si j'adore cuisiner, j'ai toujours chez moi quelques paquets de risotto lyophilisé que j'achète en Italie et des boîtes de sardines à l'huile. En grande surface, je trouve que la marque Connétable tient bien la route. Sinon, j'aime beaucoup celle de la Belle-Illoise. Sachez aussi que la sardine en boîte est un produit qui se bonifie avec le temps. Si vous stockez quelques boîtes sur vos étagères, n'hésitez pas à les retourner de temps en temps. Merci à Éléonore Luna et à Catherine Renard de nous avoir donné de leur temps pour parler de survie. N'hésitez pas à venir nous raconter sur les réseaux sociaux vos techniques pour survivre à la fin du monde, en ville comme à la campagne. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Estari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard. À mercredi prochain!